Bruno Nourry, vous êtes le maire de L'Île-Dieu, bonjour.
Bonjour.
Docteur Marc-Antoine Larvor, vous êtes président de la commission médicale de l'hôpital de L'Île-Dieu et à ce titre représentant de l'équipe médicale, bonjour.
Bonjour.
Pierre-Alain Lapicoré, pharmacien sur L'Île-Dieu, bonjour.
Bonjour.
Des cas Covid sur L'Île-Dieu, des suspicions ont-ils été détectés depuis le 11 mai dernier, depuis le début du déconfinement?
Alors donc on a eu dernièrement donc un test de dépistage PCR qui est revenu positif, qui a été prélevé sur une patiente qui devait faire un examen de routine banal, et cette patiente était complètement asymptomatique et curieusement le test est revenu positif. Donc ça veut dire que c'est d'abord un premier cas d'importation sur l'île-Dieu, puisque c'est une personne qui n'a pas bougé de l'île-Dieu. Il s'agit donc d'un portage viral, mais complètement asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'a pas développé de signes cliniques de la maladie. D'ailleurs, sur l'île-Dieu, je rassure tout le monde, il n'y a pas, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, de personnes qui présentent des signes de Covid-19. Il n'y a pas de gens qui toussent, qui ont des courbatures, qui ont des signes d'essoufflement ou qui sont hospitalisés pour des signes évocateurs de Covid-19.
Comment vous l'expliquez que cette personne est asymptomatique ?
Alors, c'est une des curiosités de cette maladie. On rappelle que c'est une maladie émergente, donc qu'on ne connaît pas encore complètement. Et puis, on ne connaît pas complètement vraiment le fonctionnement des virus. Pourquoi les virus peuvent être une partie de l'année très virulents, affecter une grande partie de la population, comme par exemple c'est le cas tous les ans avec la grippe à la fin janvier. Et puis, 6 à 8 semaines plus tard, l'épidémie s'arrête et puis repart. Bon. On navigue un petit peu à vue. En tous les cas, donc on a eu ce test PCR qui a été fait au titre de la veille sanitaire. Mais donc la positivité de ce test, engage toute la procédure de Covid tracing qui a été décidée au niveau national.
Ce qu'on appelle les cas contacts.
C'est-à-dire les cas contacts, les personnes qui ont été en lien avec le sujet positif. Donc là, on va avoir une dizaine de personnes à tester, mais encore une fois, toutes ces personnes-là ne présentent pas aujourd'hui de symptômes évocateurs de Covid-19. C'est donc une réalité épidémiologique, mais qui n'est pas vraiment une réalité médicale, et ça, on l'explique pas.
Beaucoup de tests actuellement sur l'île-Dieu ?
Alors du coup, du fait de ce cas contact, on va avoir un peu plus de tests à faire. Là, je vous dis une dizaine de cas, la liste va peut-être augmenter. Depuis le déconfinement, on fait une moyenne de 5 tests environ par jour. Le plus souvent, ce sont, même pour 100% des cas, ce sont des gens qui sont asymptomatiques. Et on le fait au titre de la veille sanitaire pour tous les gens qui vont, par exemple, sur le continent, qui doivent avoir un examen de dépistage ou une intervention chirurgicale. On teste tous ces patients-là. La nouveauté aussi, à partir de la semaine prochaine, on a décidé, normalement c'est ce qu'on va faire, on va tester tous les patients qui sont hospitalisés à l'hôpital local, là aussi pour faire une veille sanitaire et avoir une cartographie finalement de la circulation virale sur l'île.
Ce que vous nous dites, les résidents des deux EHPAD de L'Île-Dieu vont être testés par l'agence régionale de santé.
Alors oui, ça c'est du fait du cas positif, on s'est rendu compte qu'il y avait des liens plus ou moins proches. Donc, par mesure de précaution, l'Agence régionale de santé a décidé d'engager une procédure de dépistage de l'ensemble des résidents des deux EHPAD, ainsi que du personnel. Encore une fois, il n'y a pas de résidents à l'EHPAD qui présentent des signes de Covid-19. On va juste faire une cartographie de l'activité virale et de savoir s'il y en a dans les EHPAD. Plus à titre épidémiologique qu'autre chose. Ce qu'on constate dans les EHPAD, c'est que les patients qui sont vulnérables souffrent plus finalement du confinement et de l'isolement, avec même des mortalités prématurées, mais aucun patient ne présente de signes de Covid-19.
Bruno Nourry, maire de L'Île-Dieu, ces tests dans les EHPAD de... Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous stresse? Est-ce que vous êtes plutôt confiant?
Non, c'est d'abord rassurant d'aller tester dans les EHPAD, parce qu'effectivement, on a un cas sur l'île, enfin de test positif qui était asymptomatique, qui n'a pas bougé de l'île-Dieu, donc c'est pas le patient zéro. Donc on peut se dire que le virus, malgré tout, circule. Quelle est la proportion des asymptomatiques, etc. On n'en sait rien. Maintenant, je pense que voilà, de pouvoir tester dans les EHPAD, c'est une bonne chose. Pouvoir tester plus largement, ce sera mieux, mais ça nécessite des moyens. Mais bon, ce serait plus rassurant pour tout le monde, parce que on voit bien.
En vous écoutant parler, vous voudriez tester toute la population de l'Île-Dieu.
Pas forcément toute la population, mais au moins un échantillon assez représentatif de différents milieux, différentes familles, etc. On voit bien, on a un cas, bon, l'ARS, du coup, on va tester les EHPAD, on aurait 10 cas, et peut-être que là, on donnerait les moyens pour tester tout le monde. Ce qui est un peu dommage, j'aurais préféré qu'on teste, même si à un moment donné... le test à l'instant T ne présage pas de ce qui va venir après, mais ça permet de faire une cartographie. Bon, dans un premier temps, de tester les EHPAD, hôpital, ça permet déjà de, voilà, sur les lieux un peu sensibles, de pouvoir dresser un tableau de ce qui se passe. Même si, encore une fois, moi, j'aurais préféré qu'on aille un peu plus loin.
Pierre-Alain Lapicoré, pharmacien sur l'Île-Dieu, est-ce que ce protocole pour vous est assez strict ou il aurait fallu faire autrement ?
Alors, moi, j'ai...
Vaste question.
Voilà, j'ai proposé... en fait, ce qui m'a un petit peu étonné dans la gestion du Covid, c'est qu'on n'a pas mis de solution en face du problème. On a mis des solutions un peu à côté, parce qu'on n'avait pas, au départ, une grande marge d'action, mais on n'a pas...
Quelle solution pour vous est passée à côté ?
En fait, le plus gros problème, bon, on était soi-disant sur une maladie qui guérissait toute seule à 98%. Malgré tout, on s'est tapé 10 ans de mort sur la route en quelques mois, 5 ans. Et là-dessus, s'est greffé le plus gros problème, c'était la peur. Pourquoi la peur ? Eh bien, tout simplement parce que...
Là, vous nous parlez de la peur de la Covid.
Oui. Ce qui en fait sidérait tout le monde, c'est qu'on a perdu un petit peu la réflexion à cause de la peur. Et la peur, elle venait d'une seule chose, c'était l'invisibilité de l'ennemi. D'accord ? Ça se comprend bien. Si vous vous mettez dans une pièce avec une tarentule, d'accord. Si à un moment, déjà c'est pas très cool, mais si vous éteignez la lumière, là c'est plus du tout pareil. Et là, véritablement, quand on a éteint la lumière parce qu'on voyait pas le virus, eh ben tout le monde s'est mis à flipper. Et même des gens, Bruno disait dans une réunion.
Honoré le maire de Lille.
Oui, non, c'était le monsieur qui s'occupe de la SNSM qui disait j'ai vu des marins, des mecs qui ont pris des branlées terribles en mer, etc. Oui. Et qui là sont terrorisés. D'accord. Et là vraiment, ça peut se comprendre quand aussi Marco disait les gens me disent c'est pire que la guerre. Ça paraît dingue, mais ça peut se comprendre parce que justement l'ennemi il est invisible. Quand vous avez un ennemi qui est visible, vous l'affrontez et à ce moment-là vous mobilisez votre énergie et vous avez beaucoup moins peur et vous prenez les bonnes solutions parce que c'est dans l'instantané. À partir du moment où vous êtes sidéré, vous êtes paniqué, on vous dit dans un côté tout va bien et il y a 700 morts par jour. À partir du moment où on vous plonge dans ce truc-là, eh ben c'est mort et donc vous avez d'un seul coup, eh ben ce qu'on a fait un peu dans les écoles. Les adultes sont devenus des enfants et on a forcé et on est en train de forcer les enfants à devenir des adultes. On fait, c'est un truc de dingue. Donc moi je suis venu un peu aujourd'hui, malgré tout je prends un petit peu la parole un peu plus longtemps. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire que toutes les façons, il n'y a pas de critique à faire sur ce qui a été fait parce que tous les gens ont fait ce qu'ils ont pu. Je suis allé à toutes les réunions, j'ai vu vraiment des gens de bonne volonté et ça m'a fait beaucoup de bien d'assister à ces réunions. Malgré tout, je suis venu aujourd'hui pour vous dire que si on s'en sort à peu près bien, c'est parce que le virus, il est parti de l'autre côté de la planète en attendant peut-être de revenir ou même sous une autre forme. Moi, ce que j'aimerais, c'est que si jamais, et on sera forcément confronté dans un avenir plus ou moins lointain, au même problème et peut-être pire, il faudra il faudra se servir de ce truc-là. Là où on a fait une alarme incendie, comme quand on était à l'école, là, on fait sonner le truc, là tout le monde sort dans la cour, etc. Si je regarde bien, même avec bienveillance, voilà, je mets 6 sur 20 à l'alerte, ça serait bien qu'on dépasse la moyenne la prochaine fois. C'est-à-dire que si on a besoin de visibilité sur un ennemi invisible, on s'en sert et on tape pas à côté, quoi. D'accord? Actuellement, il faut quand même savoir que la visibilité, c'était les tests. Maintenant, on en a, on s'en sert toujours pas. On a on a un outil qui nous permet de tracer. Curieusement, personne n'en parle. Moi, j'ai téléchargé cette application. Elle est super nickel. Alors, de temps en temps, j'entends un mec qui me dit « Oui, mais bon, c'est contre les libertés. »
L'application pour le Covid-19.
Ouais,
pour
la Covid-19. L'application, d'accord. Elle est super. J'ai mon téléphone. Tout le monde a son téléphone sur soi. Malgré tout, ça, c'est un filtre. D'accord,
mais on peut entendre que ça rentre tout de même dans la vie privée.
Alors, bon,
il y a deux débats là-dessus.
Oui, non, mais il n'y a pas.
C'est pour ça que je voudrais avoir votre avis.
Oui, il n'y a pas de débat à avoir parce qu'en fait, curieusement, et même sur des mecs super cortiqués là, avec qui j'avais la discussion, à un moment, on dit ben oui, mais ça va contre les libertés individuelles. Et alors, si on prend un peu de recul, on se dit mais alors la liberté individuelle, si je regarde bien, moi dernièrement là, la liberté individuelle que j'avais, la seule que j'avais, c'était de me signer une autorisation à moi-même pour savoir à quelle heure j'allais faire pisser mon chien. Et donc là, je me dis peut-être que on peut peut-être arrêter ce genre de trucs qui sont complètement incohérents. Et la liberté individuelle, de toutes les façons, dans une société, ça veut pas dire grand-chose, d'accord? Parce que c'est juste mon avis. Je veux dire qu'à un moment, une société, à un moment, quand on te dit t'as la liberté, moi ce que je préférais qu'on me dise, c'est que t'as peut-être la liberté d'essayer de t'en sortir, quoi. Tu vois? Et dans le notion de liberté individuelle, quand on avance cet argument, c'est fin de non-recevoir. C'est fin de la discussion. Et là, je suis désolé, mais il y a quand même une absence de réflexion et d'analyse de la situation.
Docteur Marc-Antoine Larvor, il y a assez de tests, à votre avis, pour l'Île-Dieu ?
Ah bah pour le moment, on n'a pas été en difficulté pour tester du moins les patients malades, puisque c'était la stratégie qui avait été décidée au niveau gouvernemental et régional. Nous, on applique les décisions qui sont prises à cet échelon-là. Maintenant, s'il devait falloir augmenter la capacité de test...
Ça, c'est possible d'augmenter la capacité de test pour le test sur Île-Dieu ?
Tout est possible à partir du moment où on a une autorisation des instances qui sont au-dessus de nous. On fait pas.
Et ça, c'est pas simple à appliquer pour vous.
Bah, c'est pas simple à appliquer. Il faut avoir un apport de test, il faut du personnel, il faut des choses comme ça. Non, pour le moment, je trouve que la crise a été plutôt bien gérée. Les gestes barrières ont été appliqués, les îlets ont été exemplaires dans ce qu'on leur a demandé de faire. Je rappelle quand même qu'au début du confinement, on n'avait même pas de test. Ça n'existait pas. Donc voilà, on a des tests finalement qui sont à peu près fiables depuis environ un mois. Donc le dispositif monte à peu près en puissance. Et en même temps, il faut aussi prendre les choses en fonction de la réalité épidémiologique dans tout l'ouest de l'Europe. Toutes les pays, Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre, France, sont sur des courbes descendantes pour des raisons qu'on n'explique pas. Donc pour le moment, ça c'est la réalité de la situation. Maintenant, nous, notre boulot, notre job, c'est d'être prêt à faire face s'il y avait des nouveaux cas de gens malades à arriver, à les dépister, pourquoi pas à les traiter, parce que pour le moment, il n'y a pas de consensus au point de vue national sur le point de vue d'un traitement. C'est sûr que peut-être qu'à l'automne, si on avait une maladie qui revenait, on reconsidérait le problème.
À l'automne, vous pensez que cette maladie va revenir ?
C'est une hypothèse.
En tant que médecin.
C'est une hypothèse qui est soulevée par un bon nombre maintenant de virologues et d'épidémiologistes.
On entend parler fin septembre, début octobre.
Ouais, alors soit la maladie va suivre à peu près le même trajet que la grippe, c'est-à-dire la grippe, elle est dans la ceinture intertropicale toute l'année. Et puis l'hiver, elle passe dans l'hémisphère nord. Et puis au moment de l'hiver austral, elle passe dans l'hémisphère sud et ainsi de suite. C'est une hypothèse. Maintenant, on sait que sur la précédente épidémie de coronavirus en 2002, qui a touché 28 pays, le virus a circulé de novembre 2002 à juillet 2003 et n'a plus jamais recirculé. Le coronavirus MERS, qui circule au Moyen-Orient depuis 2010, lui circule toujours actuellement, mais donne des petits cas sporadiques parce qu'il y a un réservoir chez les chameaux. Pour ce coronavirus-là, pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas s'il va y avoir un réservoir animal ou pas. Donc, c'est pas impossible, mais c'est pas dit non plus que la maladie revienne. Donc, encore une fois, c'est une maladie émergente et le fait de vouloir prévoir l'avenir, finalement, c'est pas sérieux.
Ça reste dans le brouillard.
Nous, ce qu'on doit faire, c'est simplement être prêt, avoir le matériel pour dépister, avoir des protocoles de prise en charge qui sont écrits, c'est-à-dire l'hospitalisation des patients atteints, le confinement à domicile, comme ça va être le cas pour les patients pendant 14 jours, ceux qui ont été dépistés positifs. Et sur l'Île-Dieu, on avait bien anticipé la chose avec la mise en place d'hébergements d'urgence disponible au presbytère, au cas où on aurait des patients qui seraient malades ou dépistés positifs, qui souhaiteraient être confinés en dehors de leur domicile pour protéger leurs proches.
Bruno Nourry, maire de Lille-Dieu, y a-t-il un protocole spécifique pour cette saison estivale ?
C'est-à-dire ?
Par rapport à l'afflux de personnes qui vont venir sur Lille-Dieu, est-ce que ces personnes pourraient être testées en arrivant à Lille-Dieu ou testées à Fromentine ?
Mais moi, j'aurais préféré qu'on puisse tester plus massivement. Maintenant, c'est des choses qui sont moins entendues au niveau de l'ARS quand le virus potentiellement circule plus. Bon, là, il y a un cas de test positif, comme je disais tout à l'heure. Du coup, ça déclenche certaines choses. Donc, c'est toujours un peu le truc en France où, voilà, on évite de faire les choses en grand, alors que par moments, ça pourrait se justifier. Mais, alors, on est peut-être dans un cas un peu différent, malgré tout un peu similaire. Par exemple, en Corse, ils avaient demandé à pouvoir tester systématiquement. Ça touchait aux libertés individuelles. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est une recommandation forte de se tester avant de venir en Corse. Maintenant, moi, j'ai envie de dire, si les gens peuvent se tester avant de venir à Lille-Dieu, c'est toujours mieux, hein, ça, c'est évident. Au-delà de ça, quand on dit on teste quand il y a des cas, c'est un peu la même chose avec les gestes barrières. On sent un certain relâchement aujourd'hui. Virule circule plus, pourquoi je mettrais le masque dans le commerce, etc. Et donc il y a des gens qui veulent plus trop porter le masque, qui mettent en difficulté les commerçants, hein, pour faire appliquer une discipline d'ensemble. Je pense que quand même, quand on va dans des commerces, c'est quand même pas la mer à boire de porter son masque, mettre un peu de gel hydroalcoolique et voilà, ça sécurise quand même un minimum tout le monde, parce que ça veut pas dire qu'il y aura pas de cas sur les lieux, on sait qu'on va en avoir. Ça permet surtout d'en limiter la propagation, quoi. Donc, alors tant que, voilà, on avait l'impression qu'il n'y avait plus de cas à Lille-Dieu, il y a ce relâchement, bah, si là il y a un cas pour une personne qui respectait bien les gestes barrières, etc. Donc, voilà, ça peut très facilement revenir, très facilement se propager. Et donc, au-delà du test avant de venir ou de se tester localement, c'est aussi de bien respecter l'ensemble des préconisations, des dispositifs. Parce que si on a un relâchement global, puis on le voit en France, des relâchements par sur certaines régions, voilà, l'épidémie de temps à repartir à la hausse. Faut pas qu'on arrive à ça, parce que sur les lieux, on sait que il y a un moment donné, on a des capacités sanitaires qui sont limitées, et donc on peut pas se permettre d'une reprise épidémique. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités, hein, sur les gestes barrières. Et puis au-delà de ça, on va sur ces questions de tests là dans les EHPAD. Et puis aussi, je voudrais revenir sur ce que disait Pierre-Alain sur l'application Stop Covid. Je pense qu'elle est intéressante sur les lieux. Voilà, ça permet quand même de savoir si on était en contact avec des gens porteurs du Covid. Donc, de pouvoir très en amont pouvoir s'identifier, se tester. On parlait effectivement des libertés individuelles. Oui, certes, maintenant il y a eu quand même une approbation de la CNIL là-dessus. La CNIL, c'est quand même des gens sérieux en termes de respect des libertés individuelles sur les informations que pourraient détenir les uns et les autres. Donc il y a eu cette approbation de la CNIL. Donc voilà, si aujourd'hui on mettait l'approbation de la CNIL sur Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux, je suis pas sûr qu'il y aurait la même approbation. Donc je pense que malgré tout, on est en face d'un risque. Et ce risque, ben voilà, est-ce qu'on va par pouvoir identifier, comme disait Pierre-Alain, faut allumer la lumière. Donc Stop Covid est une application qui permet aussi d'allumer la lumière. Il faut continuer les gestes barrières. Maintenant, si on pouvait tester un peu plus, voilà. Mais bon, c'est des décisions qui relèvent de stratégies nationales qui sont difficiles à faire entendre notre petite voix dans notre coin, mais
en gros, ce que vous nous dites, vous n'arrivez pas à vous faire entendre auprès de l'agence régionale de santé.
Bah, disons que si, parce que par exemple, ils vont nous accompagner sur d'autres dispositifs, sur faire de la médiation, sur les gestes barrières. Donc d'un côté, on nous finance ces opérations, d'un autre, on freine un peu sur du dépistage un peu plus massif, mais voilà, après ça relève de cohérence politique au niveau national, hein.
Pierre, c'est compliqué. Alain Lapicoret, en tant que pharmacien sur les lieux, sentez-vous également un relâchement des gestes barrières?
Oui, on peut dire ça comme ça, parce que moi je l'ai ressenti à titre personnel. Là je suis revenu un petit peu avec la réalité du je pensais que le virus n'étant plus là, voilà, maintenant il est de retour, donc voilà, il faut reprendre tout ça. Il y a une chose à côté de ça, donc les gestes barrières, malgré tout, ils ont été très bien suivis, et ça va être assez facile de les retrouver, peut-être, bon, il faudra un petit peu de temps, mais voilà. Le truc sur lequel je voudrais, moi, insister un petit peu, je sais pas si dans les émissions précédentes on en a parlé, c'est le contexte particulier de notre île.
Et un territoire clos.
D'une part, là pour moi c'était un avantage. Au départ, on aurait pu se servir de cet avantage en disant bon, on est un territoire limité, on a des frontières naturelles, donc la logique pour moi aurait été de dire ben on va dresser un état sanitaire de l'île. C'était relativement facile à faire. Enfin, peut-être pas tant que ça, mais avoir une idée déjà de l'état sanitaire, la présence du virus, etc.
sur une carte de l'île, ce que vous dites.
Ouais. On l'a eu quand même grâce aux médecins, avec toutes les façons, la clinique, parce que là, ils étaient sur les charbons dès le départ, donc l'état sanitaire, on en avait quand même une bonne idée. Ça aurait été bien de pouvoir confirmer ça avec, comme le disait Bruno, on en a discuté pendant pas mal de temps dans les réunions précédentes, si on avait pu dresser cet état sanitaire en prenant une personne par famille, etc. Et également, on avait envisagé de pouvoir faire tester les eaux pour voir la circulation du virus, tout ça. On avait un état sanitaire. C'était beaucoup plus facile en communiquant sur cet état, en disant, voilà, sur les
Je vous arrête de tester les eaux.
Oui.
Les eaux usées.
Oui.
Mais pardon, c'est bien de le préciser.
Oui, pardon. Les eaux usées pour voir le. Donc ça, on n'arrive pas encore tout à fait, je pense, à le mettre en route.
C'est en cours, ça va venir.
Donc, en communiquant sur cet état sanitaire plus que correct de l'île-Dieu, je pense qu'il était à ce moment-là plus facile de dire voilà, nous, on s'est fait tester. Sur l'île-Dieu, eh ben, à l'image de la dune qui est en parfait état, etc., et que vous respectez naturellement, notre état sanitaire, respectez-le, et si vous venez sur l'île-Dieu, ça sera avec plaisir, faites-vous tester. Je pense que le message passait vachement bien, et ce qui évitait un truc que j'ai, qui a été, j'ai pu me rendre compte à la pharmacie, puisque tu me posais cette question, ce que j'ai pu ressentir de cette crise à la pharmacie, j'ai vu une peur de part des habitants de Lille, des gens qu'ils accueillent tous les étés depuis des décennies, mais là véritablement le problème avait changé et ça devenait véritablement problématique.
Ce que vous nous dites, les loueurs de meublés ont un peu peur de louer leurs biens sur l'île-Dieu pour cette saison estivale.
C'est pas ça dont je parle, c'est véritablement, j'ai vu par exemple au moment du confinement, il y a des gens qui sont venus de la région parisienne, etc., des grandes villes, se confiner sur l'île-Dieu. Ça a été très très mal vécu par les gens de l'île, justement à cause de la peur dont je parlais tout à l'heure. Et véritablement, il y a eu vraiment des choses qui n'auraient pas dû se produire, qui se sont produites. Parce que justement, à partir du moment où on a peur, on a peur du virus et ce qui vient
juste
derrière.
On a
peur de l'étranger, de la personne qui vient de l'extérieur. Donc, à partir de là, c'était super important d'élaborer un système qui permette de remettre le couvercle sous cette peur. Et c'était justement cette visibilité, c'est-à-dire nous, on se fait tester déjà, on a moins peur, on est sur l'île, on sait que le virus, il n'est pas là. Et à partir de là, on disait aux gens, vous venez de l'extérieur, s'il vous plaît, on a fait le ménage chez nous, venez en faisant le ménage chez vous, faites-vous tester, etc. Et tout se passera bien à ce moment-là, il n'y a plus rien qui oppose. Donc là, actuellement, le virus, il nous donne un gros coup de main parce qu'il est parti. Marco dit, on ne sait pas pourquoi il est parti. Parce qu'il est en fait de l'autre côté de la planète, en attendant peut-être qu'il revienne. Donc, on a aussi ce problème sur l'île-Dieu. Au départ, on a un avantage, on a un petit territoire, on peut faire beaucoup de choses. Mais malgré tout, si le virus est rentré à l'intérieur, là, véritablement, on a un virus dans un cul-de-sac et c'est problématique. Donc, il faudra véritablement beaucoup mieux réagir la prochaine fois.
Docteur Marc-Antoine Larvor, la peur de ce virus par les îles a un petit peu disparu tout de même. On vit avec, non? Ou il y a une certaine population qui a toujours peur?
Non, je crois que la population a réellement peur, en tout cas depuis le déconfinement, c'est ce qu'on constate en consultation, les langues se délient un petit peu, les gens ont peur de reprendre une vie normale, ont peur de retourner au travail, a fortiori s'ils ont des pathologies chroniques, et c'est bien normal. Donc, c'est sûr, là, on fait des tests épidémiologiques, bactériologiques. Bon, là, forcément, on va trouver du virus. Pour le moment, on se rend compte quand même qu'il n'y a pas de cas malades. Donc, on est sur une fin de vague. Et je pense qu'il faut être plutôt rassurant, mais en même temps, dire à tout le monde qu'il faut être vigilant. Mais il ne faut pas tomber dans la peur panique, il ne faut pas tomber dans la psychose collective. Je sais qu'on a été, noyé de tout ça là, pendant 3 mois. Il faut que la vie continue malgré tout, avec quelques gestes barrières qui sont simples. On le rappelle, le port du masque et le lavage des mains. Parce qu'en fait, finalement, on se rend compte que les gens portent le masque et ne se lavent pas forcément les mains. Voilà.
Ce qu'on appelle les 3M.
Les 3M, exactement. Maintenant, c'est sûr, oui, c'est une maladie qu'on connaît pas bien. On n'a pas encore de traitement efficace pour la chose, même si il y a de gros travaux scientifiques qui sont en cours, notamment dans les laboratoires français, Et en tout cas, si on devait faire face à une deuxième vague, on aurait beaucoup plus de moyens cette fois-ci, beaucoup plus de connaissances, et les décisions qui seront prises seront peut-être en fonction des
décisions prises peut-être plus rapidement.
Ah ben bien sûr, parce qu'on aura beaucoup plus de recul. L'histoire ne se répète jamais, hein, donc là maintenant, on affrontera les choses d'une manière un petit peu différente, avec des moyens qui seront plus importants. Voilà, faut rester confiant et puis se dire que quand même globalement, pour le moment, ça se passe bien, mais vigilance.
Vous êtes confiant pour cette saison estivale ?
Bah pour le moment, on n'a pas de raison d'être inquiet. En tout cas, moi, je commencerai à être inquiet quand je commencerai à avoir des gens malades. Voilà, la circulation virale, c'est une chose. La virulence et la transmissibilité virale, c'en est une autre. Ça, on le comprend toujours pas. Maintenant, à l'automne, lorsqu'il y aura des conditions climatiques différentes, de températures et saisonnières différentes, là, on pourra peut-être avoir de nouveau des gens malades. Mais encore une fois, ça, on est dans le domaine de la religion, là, on est plus dans la science.
La reprise des écoles pour tous à partir de ce lundi 22 juin pour l'ensemble scolaire Notre-Dame-du-Port, le collège de Lessicardière et l'école du Bonan, sont-elles prêtes pour cette nouvelle étape qui va durer, on rappelle, 15 jours, Bruno Nourry ?
Oui, en tout cas, ils se sont préparés à ça. Alors bon, il y avait des dispositions qui ne permettaient pas l'accueil de l'ensemble des élèves, hein, des dispositions de guides édictés par l'éducation nationale. Bon, ils assouplissent. En même temps, on n'a pas forcément tous les éléments pour bien faire. Ceci dit, dans chaque établissement, on a des gens responsables qui font les choses et qui adaptent les choses pour que ce soit fait dans de meilleures conditions. Nous, parallèlement, de toute façon, on avait ouvert les accueils de loisirs en parallèle de l'école pour accueillir les élèves qui n'étaient pas à l'école, dont les parents travaillaient, pour permettre le retour à l'économique. Hein, et... vous savez, on l'a fait sans l'approbation de l'autorité de l'État, parce que voilà, les guides sont toujours pas sortis. Alors c'est au niveau de l'État, on nous dit ouais, faut renvoyer les gens au travail, et parallèlement, on donne pas les moyens de garder les enfants. Donc nous, on a pris les devants, je pense, de manière responsable pour ce faire. Alors, à ce même sujet, on a aussi accueilli plus d'enfants au multi-accueil, par exemple. On est passé, la jauge était à 10, on est passé à 15, et puis dès lundi... Dès lundi, on passe à la jauge initiale.
Dès lundi 22, comme ouais, pour les écoles.
C'est ça. Alors, bon, toujours avec des protocoles adaptés en interne, parce que, là encore, au niveau de l'État, on n'a toujours pas de protocole, quoi. Donc, on sait bien que ces protocoles passent dans différents ministères, dans différents organismes avant de redescendre. Ce qu'il y a, c'est que là, il faut quand même aller à temps soit peu vite, et puis pas s'attarder au bar sur l'été et puis aux virgules. Et donc nous, on a adapté nos règles. Je pense qu'elles sont sécurisées, et puis voilà, permettre aux gens de retourner au travail, de faire leur saison. Je crois que c'est important économiquement et socialement, mais de le faire dans des bonnes conditions, quoi.
Docteur Marc-Antoine Larvor, bonne ou mauvaise idée la reprise de l'école le 22 juin ? Pour ses élèves, ou pour les parents, ou pour les grands-parents qui gardent les élèves ou qui les accueillent pour manger le midi ?
Bah si on se base sur le nombre de cas journaliers en France et des réalités là, scientifiques qui ont été mises à jour, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les enfants de moins de 15 ans ne développaient pas la maladie. À partir de ce moment-là, il est licite.
Mais ils sont porteurs de la maladie, ou pas du tout ?
Eh ben, pour le moment, non, on n'a pas trouvé de portage viral chez les enfants. Alors, ça a une explication. On pense que les enfants de moins de 15 ans font plus facilement des virus à coronavirus et qu'il y aurait des immunités croisées avec tous les coronavirus qui circulent. Voilà pourquoi le virus glisserait sur eux un petit peu comme la pluie sur une toile cirée. Mais
donc à partir de ce moment-là, ils ne peuvent pas le transmettre.
A priori, enfin je connais pas, la vérité absolue n'existe pas, mais enfin c'est les données scientifiques les plus probantes qu'on ait au moment où je parle. Peut-être que demain il y aura un argument ou une étude qui tombera et qui contredira tout ce que j'ai dit. Mais enfin pour le moment, je pense qu'il faut que, il faut que les gens puissent reprendre quand même une activité normale. Moi, ce qui me fait, le virus a fait peur aux gens, mais la crise économique qui va arriver derrière fera plus de morts, probablement. Donc, il faut que les gens reprennent leur activité professionnelle, et pour ça, il faut que les enfants ils aillent à l'école. Sinon, les parents ils peuvent pas travailler. Voilà, il faut continuer à vivre, apprendre à vivre avec le virus, c'est ça, c'est apprendre à vivre avec la peur, apprendre à vivre avec les gestes barrières. Mais on peut pas, en tout cas, on pourra pas reconfiner le pays une nouvelle fois, ça va pas être possible.
Dans ce cadre de l'ouverture des écoles, est-ce que la cantine scolaire va être ouverte, Bruno Nourry?
Non, parce que on n'a pas les moyens de faire respecter la distanciation avec l'ensemble des élèves. Donc faire manger les uns et pas les autres, ça paraît un peu compliqué. Pour les 15 jours qui restent, on va pas les réouvrir, on verra ça à la rentrée. Mais notre restaurant scolaire est plutôt petit. Hein, le midi, c'est plutôt l'usine où il y a le défilé, donc ça paraissait compliqué au principal du collège aussi de mettre en œuvre tout un tas de systèmes pour se faire, et puis de toute façon on n'arriverait pas vraiment à adapter le protocole. Bon, ça laisse le temps de la réflexion pour la rentrée de septembre.
Dernière chose avant de se dire au revoir, ça n'a rien à voir avec la Covid-19, vous vouliez nous parler du dentiste sur Île-Dieu, Bruno Nourry.
Oui, des dentistes, parce que Monsieur Aragon va arrêter son activité, et donc ça fait quelques mois où on est en contact avec un dentiste de Chaland, Dr Rouxel, qui se proposait avec un certain nombre de collègues de venir chacun leur tour sur l'Île-Dieu. Pour ce faire, nous allons louer le local de Monsieur Aragon pour mettre à disposition de ces différents dentistes. Hein, on va l'équiper et donc ces consultations vont pouvoir reprendre dès cet été. Alors pour le moment, ce sera une activité à mi-temps parce qu'ils vont être que deux cet été à pouvoir venir. Donc ça va correspondre à peu près à mi-temps, hein, c'est docteur Rouxel et le docteur Guillot qui vont pouvoir venir. Et à partir du mois de septembre, ce sera 5 dentistes, donc chacun sa journée. Et il y aura même des consultations le samedi, donc c'est plutôt une bonne chose. On fonctionne bien sûr en mode dégradé, hein, on préfère avoir des dentistes à poste. Néanmoins, il y a cette solidarité des dentistes d'en face avec le territoire de l'Île-Dieu qui est intéressante à souligner parce que c'est un vrai effort et ça permet de retrouver des dentistes sur l'Île-Dieu. Donc ça durera le temps de retrouver des dentistes. En attendant, il y a ce dépannage qui va s'opérer. Alors, pour les prises de rendez-vous, normalement, c'est en place à partir d'aujourd'hui, avec un numéro de téléphone. Alors, ce sera par le biais du CCAS, dans le premier temps, cet été. Après, l'organisation sera différente à cet automne. Mais donc, le numéro de téléphone, c'est le 07 57 06 37 29, 07 57 06 37 29. Alors c'est prise de rendez-vous, c'est de 9h à midi et de 14h à 17h du lundi au vendredi pour un démarrage de l'activité à compter du 8 juillet. Voilà.
Bruno Nourry, merci. On rappelle, vous êtes le maire de l'Île-Dieu. Docteur Marc-Antoine Larvor, une personne qui voudrait se faire tester au cabinet médical pour savoir s'il a la Covid-19, est-ce que c'est possible?
Alors, pour le moment, on peut proposer à tout le monde un dépistage sérologique par prise de sang qui sont réalisés au cabinet infirmier pour savoir si vous avez fait le Covid-19 ou pas. Après, le dépistage par PCR nasopharyngé peut être réalisé, mais en fait, on n'a pas beaucoup de moyens pour faire du dépistage de masse. Mais on va dire que la question pourrait être examinée au cas par cas. Donc, parlez-en avec votre médecin et on pourra comme ça faire les choses.
Docteur Marc-Antoine Larvor, on rappelle, vous êtes le président de la commission médicale de l'hôpital de l'Île-Dieu et à ce titre représentant de l'équipe médicale. On va finir avec Pierre-Alain Lapicoré, pharmacien sur l'Île-Dieu. Vous voulez rajouter quelque chose avant de dire au revoir, rapidement?
En complément de Marco, on pourra, quand le décret sera sorti, assez facilement proposer ce test sérologique avec des autopiqueurs.
De quel décret parlez-vous?
Donc, en fait, les pharmaciens auront le droit de pratiquer à la pharmacie ces tests sérologiques.
Tests à la pharmacie à partir de quand?
Eh ben, justement, quand le décret va sortir. D'accord? Donc là, là-dessus, c'est encore un manque de visibilité, mais j'espère que ce décret n'arrivera pas bien après la crise. Donc, on verra. Mais en tout cas, on aura cette possibilité-là qui sera assez rapide. Le test, c'est à peu près 10 minutes. Et on verra si on a croisé le virus ou pas. Voilà, ça peut être assez intéressant pour beaucoup de commerçants, etc., pour tester leurs équipes, etc. Voilà.
Merci Pierre, Alain Lapicoré, à très bientôt. Merci à vous trois d'être venus sur Neptune FM. On se retrouve la semaine prochaine pour faire un nouveau point sur la Covid-19.
Vendredi.
Merci.